Alors l'Haftara, comme tout le monde sait, c'est un chapitre des Navis qui on a l'habitude de lire après Kriyat HaTorah. On fait même monter une personne en plus, parce que Shabbat il faut monter 7 personnes, et on fait monter encore un en plus pour qu'il va lire l'Haftara, et c'est pour ça qu'on appelle ça Maftir. Les traductions des mots Maftir, Haftara, c'est séparation. C'est avec ça qu'on se sépare, qu'on termine. Comme en maftirin achar pesach afikoman. Quelle est l'idée de cette haftara? Comment est-ce que c'est arrivé? C'est marqué dans le Rishonim, qu'il y avait un moment dans lequel les goyim ils ont interdit les Kriyat HaTorah. Et comme les Chachami ne voulaient quand même pas que les gens viennent à la shul que pour faire la prière. Et il faut bien comprendre que l'idée de Kriyat HaTorah, c'est pas juste de réciter un texte. L'idée de Kriyat HaTorah, surtout à l'époque de la Gemara, c'était de faire une étude. Et vous savez qu'à l'époque de la Gemara, quand on a fait Kriyat HaTorah, il y avait une personne qui était là, en train de faire les targoum. C'est-à-dire qu'ils ont traduit verset par verset au moment de Kriyat HaTorah. Et il y en a qui disent, dans le Rishonim, qu'avant Kriyat HaTorah, tout le monde disait mi afer shnai mikra vechatargum, et ensuite on a écouté Kriyat HaTorah avec un metargem qui était là sur place pour traduire. Donc la takana de Kriyat HaTorah beShabbat est une takanat limud. C'est pas des, nous on appelle ça kriya, lecture. C'est pas une lecture, c'est une limud. C'est une étude. Ça l'idée de Kriyat HaTorah. Donc, comme Chachamim ne voulait absolument pas qu'il venir à la Shul Shabbat soit une cérémonie de prière, d'accord? Alors, de même, dès qu'on ne peut pas faire l'étude de la Torah, c'est pas grave, on a remplacé, c'est grave, mais on a trouvé une solution. La solution était de trouver un chapitre dans les Navis qu'on va lire à la place. Alors, ce chapitre-là, en gros, il y a toujours un lien entre l'Haftara et la Parasha de la semaine. Des fois c'est très facile à décoder, des fois c'est un peu plus compliqué à décoder, mais quoi qu'il soit, on trouve toujours les rapports avec un peu de force. Maintenant je signale aussi que dans l'Haftarot, il y a des minagim différents. Et les minagim différents, ils se divisent en deux. Il y a certaines Haftarot dans lesquelles, dans certaines communautés, on va lire un peu plus, dans d'autres on va lire un peu moins. Donc, vous voyez dans le Chumashim, des fois, ça s'arrête quelque part. Adkan Sfarakan Mesavim Sfaradim, Adkan Minaga Sfaradim. Et il faut savoir que quand il y a marqué Sfaradim, c'est Sfaradim, d'aïno, des vrais Bnei Sfarad. Tandis que les Ashkenazim, même ceux qui prient Nusach qui s'appelle Sfard, qui d'ailleurs a quelque chose qu'il n'a pas d'aimé, pas des pieds, ce titre Sfard. Al-Kolpanim, même les Ashkenazim qui considèrent les Gabé Atfila qui font certaines versions Sfard, mais quand ça arrive au Haftarot, Bevadaï qu'ils ont l'obligation de lire l'Haftara en entier, qui est Minag Ashkenazim, ça n'a aucun rapport avec le Chumash qui a marqué Sfaradim, parce qu'il a marqué Sfaradim velo Sfardim, si déjà on rentre dans cette nuance. Et de même que quelqu'un qui fait la Tfila, Nusach Sfard, comme ça s'appelle, il ne va pas commencer à trancher dans tout l'alachot que Minaga Mechaber velo que Minaga Rama. Donc il n'y a pas de sens qu'il va faire ça pour l'Haftarot non plus. Maintenant, de même, vous trouverez dans le Chumashim sur certaines parashiyot d'autres Haftarot ou des possibilités. Et c'est surtout, si vous regardez bien dans le Chumashim, Minag Italianim. En Italie, il y avait des communautés qui avaient l'habitude de réciter d'autres haftarot que nous. En vérité, quand on regarde les haftarot, on voit aussi des rapports avec la paracha. C'est possible que, même déjà à l'époque de la Gemara, il y avait certains minagim qui n'étaient pas partout les mêmes, car c'est pas comme le chumash qui a X parashiot et il faut le terminer tous les ans. Là, de toute façon, dans l'Haftarot, on n'a pas fait le tour de tous les Nevim. Malgré que quand on regarde bien l'Haftarot, on voit que les Chachamim ont essayé de donner une collection qui va couvrir un peu de chaque. C'est-à-dire, on trouve un peu de Shmuel, un peu de... Il y a même Yeshua, Shoftim, Melachim. Il n'y a pas un livre qui était complètement laissé de côté. Il y a des échantillons de tous les livres. Peut-être c'est aussi pour nous donner un peu de l'appétit, je ne sais pas. J'ai dit donc qu'Ibetem, quand on lit une haftara italienne, si on s'est trompé, on a lu la haftara italienne, on n'est pas des avarianim, on n'est pas des apicores, ça va, mais il ne faut pas relire la haftara. Il y a aussi certaines haftarot qui étaient différentes d'après les minhag des yéménites, qui ne sont pas les mêmes comme les haftarot des autres communautés. Atzad ha-shavesh yubahem, qui on est yotze, dès qu'on a lu X psukim. En gros, il faut que dans l'haftara, il y aura 10 psukim. Et c'est le parallèle des trois personnes qui montent à la Torah. Il y a des exceptions d'haftarot qui sont un peu plus courtes que ça, c'est quand c'est sayem inyana, c'est-à-dire quand c'est un sujet bien ferme, qui est moins que 10 psukim. Mais sinon, on cherche toujours de les mettre en parallèle avec Kriyat HaTorah, de même que Kriyat HaTorah, c'est minimum de 10 psukim. Alors là aussi, dans l'haftara, on a établi un minimum de 10 psukim. Encore une connaissance que certains vous connaissez, mais c'est quand même, ça vaut le coup de mentionner. À l'époque, il y avait le même problème pour Mincha Shabbat. Parce que quand ils n'ont pas laissé Kriyat HaTorah, ils n'ont pas laissé faire Kriyat HaTorah à Mincha non plus. Donc, il y avait un minhag de faire la lecture des Ketuvim. Kriyat HaKetuvim. Ça, c'était des psaumes ou Michelet, Iyov, v'chenala, v'chenala. Mishuma, de cette minhag, il n'a rien resté. Ouais. Et le contraire, les Chachamim, ils n'étaient pas tellement pour, parce que ça fait trop traîner. Et les gens, à cause de ça, ils ont étudié moins d'Alachot. Mais ça, c'est pas le sujet du tout. Donc, je signale juste qu'il y avait un minhag comme ça de lire les Ketuvim. En vérité, la différence entre Nevi'im ou Ketuvim est aussi quelque chose qui sera intéressant un jour de développer, de comprendre. Est-ce qu'il y a justement des degrés différents ou c'est juste une nuance, il y a un qui s'appelle Nevi'im, l'autre qui s'appelle Ketuvim. Est-ce que la Kedusha des Nevi'im est plus élevée que la Kedusha des Ketuvim, oui ou non? Il y a nafkamina le maase, si on a le droit de prendre un livre d'Ektovim et de le mettre au-dessus d'un livre de Nevi'im. Il y a de même une sheila que le même livre, par exemple, qu'il est écrit par le même rav, je dis rav, par le même navi, Kigon Shmuel, c'est un prophète. C'est lui qui l'a écrit, mais qui l'a troute. Donc, a priori, on dirait, si Sefer Shmuel, qui est écrit par Shmuel lui-même, il a le statut Navi, l'Ichora, la Megillah, qui est, elle est écrite par la même personnalité, elle devait être aussi dans la collection Navi. Et par contre, on voit bien qu'elle était placée au Ketuvim. Maintenant, le mot Navi, on comprend un peu ce que ça veut dire Navi, c'est Menabe, Medaber, Niv Sfataim, comme le Ramban, il parle dans le Chumash, dans Parshat Vayera. Mais les mots Ketuvim veut dire des écritures, pas très clair, parce que les Nevi'im, ils sont aussi Ketuvim, non? Ils sont aussi mis en écrite. Donc on ne voit pas c'est quoi exactement le titre Ketuvim. Mais ça c'est un sujet pour soi, que peut-être ça vaut le coup de développer un jour, de bien détailler tout ça. Compagnie, je reviens au sujet des Haftarot, Haftarot égale Nevi'im. Concernant l'étude de la vie, les Nevi'im, je vais juste mentionner des points qui sont contradictoires, complètement contradictoires, mais ils sont toutes les deux vrais. C'est une Gemara qui se trouve dans Masechet Brachot. Dans Masechet Brachot, Daf Kafret Amud Bet, il y a marqué dans la Gemara qu'un des Tanaïm, il a laissé un testament. Et dans le testament, il a dit, Min'ou b'nechem min ha'igayon, v'oshivum ben birkei tamedei chachamim. Éloignez vos enfants des higayon. Et habituez-les de se trouver entre les genoux des tamedei chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Empêchez vos enfants des higayon. Le mot higayon, dans l'hébreu moderne, veut dire logique. Et déjà le Rambam il s'est servi de ça parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Milot Haïgayon. C'est-à-dire c'est comme un sort d'index qui le Rambam il nous donne sur tous les mots qui définissent la pensée, la philosophie, les réflexions. Milot Haïgayon, les paroles d'Haïgayon. Mais Rashi sur place, sur le, la Gemara là-bas, min ou bnechem min haigayon, il dit, lo targilum ba mikra yoter midai. Mishum de mashra. Il ne faut pas habituer vos enfants d'étudier les trop de mikra, parce que mashra, apurus mashra, dire qu'il y a un risque que l'enfant, quand tu vas lui proposer de faire l'étude de Sefer Shmuel, ou de Perek Shos et Nagach et Apara, l'Ichora, il va préférer de se lancer dans Sefer Shmuel, avec toutes les histoires intéressantes qu'il y a là-bas, que de se lancer dans l'étude de la Gemara. Donc c'est un danger. Alors il faut éloigner les enfants de l'étude des Navis. Et Rabbeinu Baal Hatzlach, le Nadab Yehuda, sur place, il ajoute là-dessus une deuxième chose, qui va nous aider à comprendre un peu les phénomènes historiques qui on ne peut pas nier, qui en vérité les gens étudient très peu des Navis ou des Ketuvim. Très très peu. Et pas, je ne parle pas maintenant des gens qui étudient rien, je parle même des gens qui sont des connaisseurs des Torahs, et qui consacrent bien des temps pour l'étude de la Torah, quand ça arrive au Nevi'im ou Ketuvim, c'est l'air qu'ils sont complètement éloignés de ça. Alors, ce phénomène historique, il s'explique ici dans les Tzlach. Et les Tzlach, je vous rappelle, il a vécu il y a à peu près 200 ans. Dit les Tzlach, « Nirela niudati, mishum shelimud amikra, gama apikorsim lomdim bishvil alashon, kimo shelomdim shar leshonot. » Il y avait un monsieur qui s'appelait Ben Yehuda. Oui. C'est un monsieur qui avait beaucoup de connaissances de la Shona Kodesh. Et bien sûr, la majorité des mots de la Shona Kodesh, leurs sources, leurs racines, ils se trouvent dans le Nevim, dans le Ketuvim. Donc la personne, il était assis, avec la tête découverte. Et des fois, Yom Kippour, en train d'étudier le Tanakh et d'écrire des mots qu'il a sortis pour renouveler la langue. Il a fait la renaissance de la langue hébraïque. Donc, qu'on dirait que ça existait déjà à l'époque de Baal Hanoudah Biyuda. C'est gamma apikorsim lomdim bishvil alashon, qui moi se lomdim char leshonot. Dire, dans chaque langue, si je veux vraiment connaître les sources de la langue, je dois faire la lecture des anciennes littératures. Si je vais lire les anciens livres de sept pays, je vais comprendre les sources de la langue, comment est-ce que la langue a été construite. C'est très simple. C'est lui qui veut vraiment connaître les Français, il doit apprendre le latin. Et quand on apprend le latin, on sait comment est-ce que la langue française a été construite à partir des latins. Mimeile, v'im lo tashgiach al bincha b'yalduto rak al limud ha-mikra, yachol liyot shetikach lo melamed echad mishelahem, ki gam hem yodim lelamdo. Donc les enseignants qui enseignent la Bible, les Tanakh, ils se trouvent aussi parmi ces gens-là qui sont des apikorsim, qui ne sont pas des croyants. Mimeile mitor kach bincha nimshach achareim gam bedeot nifsadot. Et donc ton fils soit attiré derrière eux pour des mauvaises idées. Donc les Tzlach Kanira, il veut expliquer ça dans Rashi. C'est ça qu'il dit Rashi Mishum de Mashra. Mon cher, ça attire. Qu'est-ce qu'il attire? C'est pas seulement l'étude lui-même. C'est les gens qu'ils enseignent qui sont pas toujours très glades, très cachés eux-mêmes. Alors, ils risquent d'attirer les enfants et de leur mettre dans la tête des idées qui sont des idées dangereuses. Ou bifrat bizmaneinu, je nitpache ta targum ashkenazi. Veze moshech likrot besifre agoyim kedei liot baki beleshonam. Donc, aujourd'hui, tout était traduit en français. Là, il y a marqué Ashkenazi, mais ça revient au même. Donc, à l'époque, ça s'est passé comment? L'enfant qu'il était censé d'apprendre le Tanakh pour apprendre la langue, le Shon HaKodesh, mais sauf d'avoir quand ça a été traduit de la Shon Ashkenaz en allemand. Alors, le Tanakh est devenu un serviteur pour apprendre l'allemand. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, donc ça va complètement renverser les rôles. On commence par lire les Tanakh pour apprendre la Shona Kodesh, mais sauf la Shona Kodesh devient un serviteur de quoi? De les Shonot Agoyim. L'achen izir mise. Aval, comment est-ce qu'il faut faire? Chanoch l'anar al pidar ke a Torah. Ve'oshi ve'em ben bir ke talmid chachamim, gam be'yaldutam belomdam mikra, kach lo melamed, talmid chacham. Donc c'est pour ça que les deux avertissements étaient dits en même temps. Un, minouv nechem mina igayon, ça veut dire de lire les Tanakh mina igayon, avec des profs qui sont n'importe qui. Et là aussi, vous me birke tamedi chachamim pour apprendre les Tanakh, qu'il lui trouve un enseignant qui est tamid chacham. Et cet enseignant tamid chacham veyergilotechev gam bemishna ou begmara. Donc cet enseignant qui est tamid chacham, il va arriver par l'intermédiaire de l'étude des Tanakh, de lui habituer en même temps de faire quoi? La Mishnah et la Gemara. Veharbe yesh lochiach al ze bedoreinu. Et il y a beaucoup à parler et de faire de la remontrance là-dessus de notre génération d'Iletzlach. Chez Pasta Hamispachat Meod, cette lèpre s'est allée énormément. Ou Mina Shamaim Yerachemu. C'est-à-dire, comme lui, il voit la situation, c'est, il faut Rachamei Shamaim pour que ça va tenir. Et lui, il a vécu encore un peu avant Mendelssohn, un peu avant. Mais s'il aurait vu tout ce qui s'est passé après, Bemet, c'était Bemet une catastrophe. Kolpanim, il faut savoir que d'étudier le Tanakh sans les commentaires de Chazal, c'est très grave. Parce que la façon qu'on lit les textes de Sifrei HaNeviim, il risque de nous amener à des pensées, à des conséquences qui sont complètement tordues. Je prends l'exemple la plus connue, l'histoire de David et Bathsheba. C'est une histoire qui a l'air d'être moche comme c'est pas possible. Mais vraiment comme c'est pas possible. Et il vient le Chachamim dans la Gemara. Et ils nous disent, Kol haomer David chata, eino ela toé. Alors bien sûr, quand on lit une phrase pareille, il y a toujours une petite pensée qui pénètre et dit, ah ouais, évidemment, les Chachamim, c'est le rôle d'enduire, d'arrondir les angles, d'essayer de ne pas parler trop de mal de David Amelech. Ils veulent protéger les religieux, ils veulent protéger l'image de David Amelech, Tehilim, tout ça, on va pas... Non, on peut pas laisser les gens penser de choses pareilles. Donc, il nous raconte une histoire, que chaque personne qui part à la guerre, il donne une guette à sa femme, etc., etc., etc. Tellement la Gemara, elle parle de ça, qu'on se demande, en fin de compte, alors où est le problème? Pourquoi après, les prophètes, il est venu pour faire de la remontrance à David? Où était le problème? Ça veut dire qu'on saute à l'autre extrême et on se demande, est-ce que s'il a pas fauté, alors pourquoi il a fauté quand même? Ça veut dire, où? Quand? Comment? Le problème n'est pas là. Le problème est, comme dit l'Etzlach, que si le Melamed Mikra, il n'est pas Talmid Chacham, et il risque d'enseigner le Mikra d'après Pshuto sur le Mikra, on va se trouver facilement devant un manque total de compréhension des textes, qu'il risque, sans parler des problèmes de l'allemande ou pas l'allemande, qu'il risque complètement de rendre l'enfant tordu. Donc c'est vital d'apprendre les Tanakh collé avec Divrei Chazal. Et celui qui il étudie les Tanakh chez Loal puis Divrei Chazal, ouais, il faut savoir que c'est pas le Pérouche qui lui manque quelque chose, c'est comme qu'il a rien appris. C'est-à-dire, il fait l'étude d'un texte qu'il a rien à faire avec la réalité. Je parle de la réalité de l'acte, de l'histoire. D'accord? On va prendre un exemple. On vient de parler de David Ameler. Et je vous dis qu'il a gmara dans Shabbat Afnouvav dit que la mère David chata et noël atoé. Et quand je vous dis, mais on pense quand même quelque part qu'il Chachamim essaye d'arranger les coups pour ne pas regarder trop mal David Ameler, parce que c'est pas gentil de penser de lui des choses pareilles qu'il va tomber sur la femme de quelqu'un d'autre, etc. Maintenant, je ne parle pas des Zohar qu'il dit que David il a vu Beruach HaKodesh, qui c'était son zivug. Et bien, c'est marqué aussi dans la gmara à la fin de Sanhedrin que Bathsheba a été mieuxedet le David, mais c'est même Bereshit, comme ça dit la Gemara. Ouais. Mais, quand même, après tout ça, on s'est dit, mais les Chachamim sont des fois trop gentils parce qu'ils essayent de garder les intérêts de la communauté orthodoxe, ultra-orthodoxe. Alors venez, on va ouvrir l'haftara de cette semaine de Chaye Sara, et on va essayer de voir est-ce que c'est oui ou non vrai que Chachamim sont là pour passer de la pommade, ou pour enduire, ou pour boucher les trous, ou pour arranger, ou pour arrondir les angles. On verra. Donc, commencer la haftara elle-même. Ve'amelech David Zaken, Baba Yamim. Donc, c'est en vérité déjà dans le premier pasouk les rapports avec notre paracha, Avraham Zaken Babayamim, Vamelech David Zaken Babayamim. On parle des deux personnes, Babayamim, et voici les liens avec la paracha. Il n'est pas caché. Et les liens, ils s'enchaînent en vérité parce qu'en parlant, on va parler plus tard qui il est devenu l'héritier de David Amelech. Et dans la paracha de cette semaine, on parle aussi d'Yitzhak, il devient l'héritier d'Abraham Avinu. De même qu'ici, David, il offre la royauté officiellement à Shlomo. Et Abraham, il a donné un shtar matana à Eliezer, comme Chachamim nous disent, al kol asherlo. C'est-à-dire que maintenant, tous les biens d'Abraham Avinu deviennent les biens de Yitzhak. Donc, c'est ça les deux points parallèles entre la paracha et l'Aftara. Kol panim, l'Aftara commence avec « Vamelech David zaken baba yami »« Vaychassou babgadim »« Velo yicham lo » On l'a couvert avec des vêtements et il reste toujours dans le froid. Il est frûlé. Donc, des choses pareilles peuvent arriver à n'importe qui. Mais voici un exemple. Quand on lit un pasouk comme ceci, Sefer Melachim. On commence les livres des rois. Les livres des rois, ils commencent avec un événement vraiment minable. On parle d'un vieil roi qui a froid et qui on lui couvre avec des vêtements et il ne chauffe toujours pas. Puis là, il pleure. C'est vraiment miskin de parler de ça. Alors qu'on va parler de ça quelque part, au plein, ou à la fin de Shmuel, Nagid. Parce qu'on a parlé de David jusqu'à maintenant, là il a déjà 70 ans, c'est la fin de carrière de David en vérité. D'ailleurs, remarquez que dans ce Sefer Shmuel, on a parlé des deux rois, Shaoul, David. L'Ichora, ça pouvait aussi déjà être le début de Sefer Melachim, mais non. Pourquoi? Parce que tant que Shlomo n'était pas nommé comme l'héritier de David, et comme tant que David n'a pas monté une vraie dynastie, on est dans un matzav melech-melech. Retzoni lomar, Shaul melech echad, David melech echad. À partir de quel moment on passe au deuxième niveau, qui est le niveau melachim, c'est à partir du moment que David il a nommé Shlomo. Et là, on va raconter comment est-ce que Shlomo a été nommé. D'accord? Deuxièmement, le livre il s'appelle Melachim aussi parce que dans le livre Melachim on va trouver comment est-ce que la royauté des peuples d'Israël a été divisée en deux, Malchut Yehuda et Malchut Israël. Et c'est pour ça qu'Rambam il a appelé son livre aussi Ilchot Melachim. Il n'a pas appelé ça Ilchot Melech, il a appelé ça Ilchot Melachim parce qu'il y a en vérité une certaine légitimité à cette division des rois comme on trouve là-bas. Rambam, Raïved Bilchot Melachim, mais je ne vais pas mettre trois éparpillés, Raïved qui parle de Kaysar ou Plaque Kaysar. On commence à parler de Vehamelech David Zaken Baba Yamim, il est âgé, Vehichassou Babgadim Velo Yechamlo. Événement très minable. Rashi, sur place, il amène Divrei Chazal. Amrou Raboteinu, nos maîtres disaient, tout celui qui va déshonorer les Bgadim, qui va se comporter avec les Bgadim chez Lokeddin, en fin de compte, il soit puni Mida Keneged Mida, qui ne va pas profiter de ces Bgadim. Il ne pourra pas profiter d'eux. Les filles chez Kara et Knaf Ameil, les Shaoul. Histoire de Shaoul qui s'est caché dans la grotte et David il rentre là-bas et lui coupe l'ongle de son manteau pour lui montrer après qu'il avait la possibilité de lui tuer, il ne l'a pas tué. C'était un comportement agressif des côtés de David par rapport aux vêtements. Et c'est pour ça qu'il est puni la fin de sa vie d'être allongé dans son lit, couvert avec toutes sortes de couvertures et il continue à trembler de froid. Alors c'est lui qui va me dire que les chachamim ils sont là pour arrondir les ongles. Il ne semble qu'il est tout simplement pas honnête. Parce que de venir et de faire une histoire de Vaychassou Babgadim Velo Yichamlo, une pénition sur le fait que David il a coupé un morceau de tissu, c'est quelque chose qui dépasse toute imagination et toute compréhension. Qui va dire que quand David il a fait celle-ci, il a fait une avéra. Ça, c'est une avéra de couper un vêtement. pas discuter peut-être mais d'une mazik, est-ce qu'il doit payer à Shaoul, est-ce qu'il ne doit pas payer à Shaoul, je ne sais pas de quoi il faut parler ici. Mais si je vous raconte que voilà, quelqu'un il a coupé un morceau de tissu d'un vêtement, et ensuite il était puni qu'il a fin de sa vie, il aura tout le temps froid à cause de ça, parce qu'il a manqué de respect vers le vêtement. Ça veut dire qu'il est Chachami, il regarde David HaMelech comme quelqu'un qui est tellement supérieur à tout ce que nous on peut s'imaginer, qui avant de faire un geste pareil, d'ailleurs, de couper un morceau de tissu, il doit se demander, est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui est trop agressif vers la baguette. Peut-être je pouvais me débrouiller autrement. Peut-être je pouvais donner un autre signe à Shaoul pour lui montrer que j'ai bien pu lui tuer. C'était pas la peine de couper. Et si David, qu'il faut pas oublier, ah, il était en danger de vie, il était tout le temps poursuivi par Shaoul, il était très agressé, très menacé, très peiné. Quand même, il a pas fait les calculs qu'il faut. Pour les Chachamim, c'est évident qu'il doit être puni pour ça. Maintenant, est-ce que nous, ça nous arrivera la même chose? Je pense pas. Parce que nous, à notre niveau, déjà, à Alvaï, qu'on va pas faire des avérotes officielles. Donc, si on voit bien que d'un côté, les Chachamim sont capables de tomber sur David, tellement fort, et de dire, parce que tu as fait cela, tu souffres maintenant de ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune réduction. N'est-ce pas la seule preuve? J'ai des centaines de preuves qui, quand les Chachamim veulent tomber sur quelqu'un, ils veulent. Je sais pas qu'ils veulent. Quand ils savent que c'est la vérité, et que la personne est la faute, même s'il s'agit de Gadol Shebegdolim, il n'y a pas de problème. Dans les Ramban sur le Chumash, on trouve de temps en temps qui tombent sans pitié sur Abraham Avinu, sur Sarah Imeinu. Ils sont tous punis quand il faut. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter ici avec cet exemple, mais c'est un exemple qui doit nous donner la vraie proportion par rapport des commentaires des Chachamim. Ils ne sont pas là ni pour faire des mal, ni pour faire des bien. Ils sont là parce qu'ils sont les seuls qui avaient la transmission. Et ils savent donner à chaque verset dans le Navi la bonne proportion. Comment est-ce qu'il faut regarder les personnalités sur lesquelles on parle dans le Navi? Nous, quand on parle de ces gens-là, on voit qu'ils se servent des épées, des lances, et leurs moyens de transport sont des ânes et des chevaux dans le meilleur des cas. Quelque part, on les regarde, si on veut, si on veut pas, comme des primitifs. Ils sont pour nous des choses qui sont moins développées que nous. Nous, on a même l'Internet, nous. Et des ordinateurs portables. Et des portables. Et l'email. Et ces gens-là, le meilleur des cas, ils se servaient de quoi? Des colombes pour envoyer des lettres. Ça, c'était déjà pour eux les moyens les plus sophistiqués. Alors, quand on les regarde, on voit devant nous des gens qui sont vraiment, bon, peut-être des tzadikim, mais des tzadikim pas bien équipés. Mais c'est pas la question s'ils sont tzadikim ou des shaïm. Le perouche, il est qu'il s'agit des gens qui ont vécu des dizaines des générations avant nous. Et il faut savoir qu'il est même qu'il y a Chachamim nous disent, im arishonim ke bnei adam, anu ke, arishonim ke malachim, anu ke bnei adam, im arishonim ke bnei adam, anu ke chamorim. Là, on parle d'un écart de 1 ou 2 générations. Quand on parle des générations qui sont, des générations qui sont vécues, des dizaines de générations avant nous, on n'a aucune idée sur leur grandeur. Et voici, Sefer Melachim, il commence avec ça. Maintenant, une fois qu'on voit cet débit, alors on doit comprendre que tout ce qu'on va voir dans la suite, il faut le regarder par la même perspective, avec la même lunette. Ben, Emrou lo avadav, le serviteur David lui dit, Yivakshu la Adoni HaMelech Na'ara Betula. Il faut chercher pour David une fille vierge. Ve'amda lifnei HaMelech, Utehi lo Sochenet. Cette Na'ara Betula, cette fille, cette jeune fille vierge, Amda lifnei HaMelech. Utehi lo Sochenet. C'est-à-dire, elle soit sochenet. Rashi l'explique, mechamemet. Elle va chauffer David. Veshachva becheikecha. Vecham la Adoni HaMelech. Il y a ici une très. Une nuance très fin. On commence On parle de David HaMelech Belashon Nistar. Je crois que c'est la troisième personne, non? La Adonai HaMelech Nara Betula. Vamda Lifnei HaMelech. Ou Tehi Lo Sochenet. On parle de lui. Dans un coup, Beshachva Becheikecha. D'ailleurs, elle va être couchée à côté de toi. Donc, dans un coup, on passe de troisième personne en deuxième. C'est un changement très intéressant. Ça, c'est le Rav Malbim qui l'a remarqué. Et il explique là-dessus que ça, c'est quelque chose qu'il est en question de penser, qu'on a annoncé partout, qu'on cherche une jeune fille vierge pour qu'il sera couché à côté de David pour lui chauffer. Impossible de croire qu'on va annoncer une annonce pareille devant le grand public. Le contraire. Devant le grand public, on dit qu'on cherche une jeune fille pour servir chez le roi. Et ça, c'est légitime. Des servantes, c'est une nécessité royale habituelle. Donc, Utehilo Sochenet, c'est un mot qui se commande dans deux sens. Sochen, ça peut être un manager, un responsable. Et Sochenet, c'est aussi une relation chimum, chauffé. Comme Rachid Amen le Pasuk. Bokea etzim yiskon bam. Celui qui coupe le bois, il va s'échauffer grâce à ces bois qui ensuite, il va se faire quoi? Et il va le mettre dans la cheminée. Donc le sochenet, c'est qui elle chauffe, et en même temps, elle est aussi le manager. Mais veshachva becheikecha, ce sera un secret intime qui personne ne le saura. C'est entre toi et elle. Vecham l'a donné à Melech. Autrement dit, et la seule utilité de ce contact entre David et la jeune fille, c'est uniquement Vecham. Rien de plus. Et il faut exclure tout de suite dans la tête l'idée que David HaMelech va penser faire quelque chose avec elle. C'est déjà, ça commence déjà avec Zaken Baba Yamin. C'est pour nous faire comprendre tout de suite qu'il est de toute façon, il n'était pas dans l'idée de se chercher d'autres jeunes filles comme des femmes. Deuxièmement, quand quelqu'un est Zaken et il prend une jeune fille, c'est injuste, comme la Gemara l'a dit. Et surtout, surtout, Chachamim nous disent que David, à ce moment-là, il avait déjà 18 femmes. Et c'est connu qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Donc, c'était de toute façon exclu que David va l'épouser. Même si c'était une solution un tout petit peu plus, je ne vais pas dire cachère, parce qu'il n'y avait pas ici un problème de cacheroute. Mais c'était certainement officiellement quelque chose qui pouvait permettre de faire cela, pas en cachette. Donc, le Veshachva Becheikecha est une chose qui va se faire comment? En cachette, en discrétion. Maintenant, évidemment aussi, on ne va pas oublier cette fête. Il faut maintenant faire sorte que David il va rentrer dans un système dans lequel il sera isolé des autres. C'est-à-dire qu'ici, jusqu'à maintenant, par exemple, malgré la vieillesse de David, les gens iront très systématiquement chez lui pour qu'il continue à gérer les pays, l'État. Mais à partir des moments où on va rentrer dans le système, que David il est tellement souffrant, qu'il a tellement froid, qu'il n'y a pas une autre solution qui est de se servir de cette jeune fille, alors il faut faire en sorte que David soit séparé des autres. Donc personne ne va rentrer chez lui, y compris même pas ses femmes. Maintenant, le roi il est malade. On annonce aux gens que le roi est malade. Et le Veshachva Becheikecha, il va se faire comment? Dans la discrétion totale. J'ai précisé ça parce qu'avec ça, on va comprendre la suite. Vaivaksu na'ara yafa b'chol gvul Israël. Ils ont fait une recherche. Vaimseu et Avishag Ashunamit. Ils ont trouvé une fille qui s'appelle Avishag de la ville de Shunem. Vatehi lo le. Vatehi lo sochenet. Vamda lifnei amel. Non, j'ai sauté. Vaimseu et Avishag Ashunamit. Vayavi otar amelech on l'amene. Elle était très belle. Alors, les choses qui sont intéressantes, c'est que dans la proposition, on ne parle pas du tout de la beauté. Ce n'était pas le problème. On n'a pas parlé de belle, une belle fille ou pas une belle fille. Là, dans un cours, le pasouk, il nous informe, gratos, c'est un cadeau, on nous dit, mais Agav, qu'elle était aussi très belle. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est lié avec la suite aussi. Donc elle était sochenet dans les deux sens, c'est-à-dire officiellement klapechutz, elle était sochenet, genre secrétariat, etc., etc. Vatesharteu, elle est la servante, mais nous on sait qu'en discrétion, elle était aussi le moyen de chauffage, les derniers moyens qui restent pour que David ne va pas souffrir 24 heures sur 24. Et les pasouk qu'il précise, va Amelech lo yeda. Et David Amelech, il n'a pas eu un rapport avec elle. Ça non. Il y a les pasouk qu'il dit, va Adonia ben Chagit mitnase leimor ani amloch. Adonia, le fils de Chagit, il s'élève la tête et il dit, ani amloch, moi je vais régner. Alors, c'est pas seulement qu'il est mitnassé dans les idées, il commence à pratiquer. Vayas lo rechev, ou farashim, il s'est fait une belle carrosse, il s'est fait des cavaliers, vachamishim ish ratzim lefanav, et 50 personnes qui couraient systématiquement devant lui. Aujourd'hui, il y a les montards qui roulent devant. À l'époque, c'était ratzim, des coursiers, des gens qui courent. Chachamim nous disent qu'il était tellement maniaque, Adonia, que ces 50 personnes, ils ont passé une intervention chirurgicale, on les a enlevé la rate, et on les a enlevé une partie en dessous de pied, pour qu'ils pourront courir sans difficulté à la kotsim et à la barkanim, sur des épines, et on les a enlevé la rate, parce que vous savez, des fois, quand on court trop vite, ça commence à faire mal des côtés, c'est la rate qui souffre. Quand on enlève la rate, on peut courir plus vite. C'est-à-dire qu'Adonia ben Chagit était un monsieur très agressif. Et pour son kavod, il était prêt à faire aux gens des choses incroyables. Et le pasouk qu'il explique tout de suite comment est-ce que l'idée est venue dans sa tête. C'est-à-dire, « V'chameshim yishratzin lefanav » on a commenté d'après la Gemara, « Netulei techol v'chakukei kapot raglay » Rashi l'amène ça. Chamishim ish netulei tchol v'chakukei kapot raglay. Comment ça se fait qu'une personne il arrive à être tellement agressif, tellement cruel, qu'il pour un miette de kavod, pour que les gens courent un peu plus vite, il est capable de leur faire une intervention tellement agressive? Je m'imagine sans anesthésie. Hein. Velo atzavo aviv miyamav leimor madua kacha asita. Parce que son père lui a jamais dit pourquoi il a fait ceci. Il lui a élevé dans la gentillesse. David, il a élevé Adonia dans la gentillesse. Pourquoi, c'est une autre question. Peut-être on va parler de ça, peut-être on va parler de ça. C'est une question. Mais dans la réalité, les pasouks nous disent que la raison de tout ça, c'est pourquoi, la raison profonde de tout ça, c'est pourquoi, velo atzavo aviv miyamav leimor madua kachasita. Maintenant, il ne faut pas sauter à l'autre extrême et de dire, bon, si c'est ainsi, je dois maintenant acheter un grand loupe ou un microscope et de commencer à regarder mon fils par un microscope et sur chaque petite pas qu'il va faire pas comme il faut, je vais commencer à lui faire de la remontrance. Ça, c'est non plus un bon système. Il faut quand même savoir être bien équilibré. Son père lui a jamais dit pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ça. À part ça, avec Amut Tov Toar Meod, il était très beau, et la beauté physique, c'est un danger. Et en plus, ça plaît aux autres. Quand on voit quelqu'un de beau, ça donne l'envie de s'attacher avec lui. Ve'oto yalda achave Avshalom. Explique Rashi, et c'est marqué dans le Midrash, que Avshalom, il n'était pas du tout de la même mère. Parce qu'Avshalom, il était le fils de Maacha. Et Adonia, il était le fils de Chagit. Il s'agit de deux femmes. Alors, quoi, ce terme, Voto Yalda Achre Avshalom, disent les Chachamim et Rashi l'amène ça. כלומר, גידלתו אחר תרבות שגידלה אמו של אבשלום. C'est-à-dire, Chagit, dans son système d'éducation, elle a éduqué, elle a élevé Adonia exactement dans le même système d'Avshalom. L'histoire d'Avshalom, elle est très connue, il s'est révolté contre David Amelach. Maintenant, je reviens au début de l'histoire. On s'est demandé pourquoi un événement tellement minable comme l'histoire de Froid de David, elle démarre les livres de Melachim. Parce que les livres des Melachim, ils démarrent en vérité avec Adonia ben Chagit mitnaselemo. Et si on cherche à comprendre comment est-ce qu'une chose pareille est arrivée, alors maintenant on a compris beaucoup. Je ne dis pas qu'on a tout compris, parce que moi je pense que jamais on comprend tout. En français on dit très facilement, ah j'ai tout compris. Et moi j'ai des mal à dire j'ai tout compris. J'ai compris déjà pas mal. Il y a des phénomènes ici, d'après les explications qui ont été données sur le début. Un, c'est le fait que cette histoire d'Avishag était faite dans la discrétion totale. C'est Veshach Vabecheikecha. C'est-à-dire, ce sera juste le roi qui sera au courant de cette histoire. Qui a fait, comme on a expliqué, que David a été isolé, quelque part, de tous les gens qui avaient l'habitude de lui fréquenter. Adonia, il n'était pas bête. Dès qu'il a remarqué que David il est tellement malade, parce que c'est ce qu'on a expliqué aux gens, on a dit aux gens, David il est tellement malade qu'il maintenant il ne peut plus recevoir de monde. Il y a même ses femmes qui ne rentrent plus. Alors à partir du moment qu'Adonia il a vu que David il est isolé, et il s'est dit, c'est maintenant le moment. Parce que si David il va mourir et les gens ils vont nommer un autre comme roi, c'est fichu pour moi. Ou bien ce sera plus difficile, à la parole. Alors, quand David il est tellement malade, il n'y a personne qui gère, il n'y a personne qui dirige, les gens ils sont un manque. Et de l'autre côté, David, il est totalement passif, inactif. Donc, c'est le moment dans lequel je peux remplacer les trous. Je peux boucher les trous et je peux remplacer David. Et ce sera tout à fait naturel que je ferai ça. Deux. Le verset, il nous a ajouté gratuitement Vanaraya Famod, qu'elle était très belle. Et c'est là qu'il est passé qu'il dit après Voto Eldach Avshalom. Ça veut dire qu'Avshalom, quand on relit son histoire, une des choses qu'il a fait pour montrer aux gens qu'il est maintenant le roi, c'est qu'il s'est permis d'avoir un rapport avec le Pilagshim de David. Vous savez, marqué dans le Pasuk. Quelque part, et je ne vais pas être freudien évidemment, mais quelque part, des fois c'est vrai, que les histoires des femmes, ils sont derrière les idées de la personne. Quand Adonia, il a vu cette jeune fille qui est maintenant la servante de David, pour lui elle est seulement la servante, il n'y a pas de mal. Alors, il regarde la fille, il voit qu'elle est la femme meod. Et lui, il est aussi Tov Toar Meod. Donc, les Yafam Meod et les Tov Toar Meod, pour lui, c'est un chidour génial. David, il va mourir bientôt, parce que s'il est tellement malade qu'on est loin tout le monde de lui, on l'isole, ça signifie que vraiment c'est la fin. Et donc, à partir du moment que David il va mourir, lui, Adonia, il va épouser qui? Avishag, Nahara, Yafa, Mehod. Ça sera un chidour royal. Et avec ça, le fait qu'il ait la continuité de David va faire une coopération entre les agréables et les utiles. D'un côté, c'est très agréable d'avoir une femme jeune, vierge, tellement belle. Et de l'autre côté, ça va bien fonder sa position comme le vrai héritier des rois, parce qu'il a hérité même une femme qui était presque la femme de David. Donc en vérité, toute la première partie, les quatre premiers versets qui nous parlent de l'état de David actuel, ils sont là pour nous expliquer comment est-ce Adonia, il s'est permis de faire une chose qui, a priori, il était condamné à l'échec d'avance, une fois qu'il a vu déjà qu'est-ce qui est arrivé avec Avshalom. Il pouvait se dire, je ne vais pas terminer comme Avshalom. C'est pas intéressant. Pourquoi je vais me lancer dans une aventure pareille? C'est très dangereux. C'est vraiment pas souhaité. Et quand il a quand même fait ceci, c'est parce qu'il y avait ici des choses qui l'ont poussé de les faire. Donc, poussé de les faire, c'est comme j'explique, c'est deux jusqu'à trois choses. Un, le fait qu'il s'est senti très sûr de son coup parce que David, il est isolé. Deux, parce qu'il a jugé que même politiquement parlant, ce sera très intéressant, tout de suite après la mort de David, de prendre cette nouvelle jeune fille qui elle est maintenant dans le palais royal. Et troisièmement, il avait tout simplement envie d'elle. sans discussion. Alors, comment on fait ça? D'abord, il ne faut pas être tout seul. Il faut coopérer, il faut s'allier avec tous les anciens. Voilà, un petit cours à ceux qui veulent bien organiser une révolte, un coup d'État. Comment est-ce qu'il faut travailler? Vayudvarav im Yoav ben Tsruya. Donc la première personne avec laquelle il parle, c'est Yoav. Rachid dit tout de suite pourquoi juste Yoav. Parce que cet Yoav, il n'était pas très bien avec David. Il était Saratsava d'un côté. Mais de l'autre côté, il a tué Avner, il a tué Amasa et il a tué Avshalom. Et donc, Adonia, il était très malin, très intelligent, et il savait que Yoav, il a en vérité peur de David. Et il ne sait pas comment ça va se passer une fois que David va mourir. Il craint que David, peut-être, avant de mourir, il va prendre sa revanche de lui. Et même si, pas lui, parce qu'il a fait des promesses ou des semi-promesses, mais il va faire le nécessaire pour qu'après la revanche soit prise, comme c'était la réalité ensuite. Deuxièmement, il a parlé avec Eviatar à Cohen. Eviatar à Cohen, il avait le même problème, parce qu'à un moment, David Amelech, il l'a remplacé par Tzadok, car Eviatar, il a fait ce qui s'appelle chez Elat Urim Vetumim, il a posé des questions à Urim Vetumim qui n'ont pas répondu. Et donc, c'est à cause de ça que David, il a compris qu'il n'est pas le Kohen qu'il a pensé. Il est un Kohen. Et donc, il l'a remplacé par qui? Par Tzadok. Donc, Eviatar, il faisait aussi partie des gens qu'ils ont senti repoussés par David Ameler. Donc, on fait la collection, on réunit tous les gens qu'on appelle dans les vrais modernes les Kupachim. Ça veut dire tous les gens qui sentent qu'on les a écartés, qu'on les a... qui sont les déçus, ceux qui sont déçus, qui se sentent vivre dans la injustice. Vayazrua achrei Adonia. Donc ces gens-là, ils ont bien aidé Adonia. Mais par contre, Vetzadok haKohen, Uvnayahu ben Yoyada, Venatan haNavi, Veshimri, Verei, VeGiborim asher leDavid, lo ayu im Adoniahu. Tous ces gens-là, ils n'ont pas suivi Adoniahu, ils ont resté des côtés. En ce moment, ils ne prennent pas de position, mais les navires nous disent « Lo ayu im Adoniahu ». Mais, c'est aussi une petite critique. « Lo ayu im » c'est une chose, « aval gam lo ayu neged ». Ils n'étaient pas là non plus pour contester. Et ça, c'est une tana. Quand on voit une personne qui il est dans un problème, ou qu'il essaye de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, pas dire shalom alaykh nafshi, c'est pas mon problème, il faut pas se mêler toujours. Il faut se mêler. Bechlet, il faut se mêler. Dans la parasha de la semaine dernière, on a lu, Sarah, il a dit à Abraham, Hamasi alecha. Je te regarde comme Hamsan. Hamsan, c'est un voleur. Explique Rashi, quand tu as prié, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir les enfants, tu as prié pour toi. La preuve, tu as une enfant de Agar. Et moi, j'ai toujours pas. Donc, tu m'as volé la prière. Alors, Shachar Zatzal, il a dit là-dessus, on voit bien des là qui, quand quelqu'un il peut prier pour quelqu'un d'autre, il ne le fait pas, c'est pas qu'il n'a pas fait chesed, c'est qu'il lui a volé un droit. C'est-à-dire, on a les droits d'attendre de la part des gens qui sont à côté et qui voient notre souffrance, de faire sorte qu'ils vont... faire quelque chose pour nous. Alors, c'est-à-dire qu'il a dit, ça c'est déjà par rapport à une prière, mais il a dit une autre chose. Si tu vois à côté de toi une personne à qui tu peux aider, et tu ne le fais pas, tu as volé de lui un droit. C'est un droit qu'il a.